Arthur de Gobineau, Nouvelles Asiatiques, La vie de voyage. J'aimerais mieux, dit Valério, te laisser chez tes parents. De grosses larmes roulèrent dans les yeux de Lucie. Elle regarda celui qui lui parlait avec une telle angoisse qu'on ne saurait rien imaginer de plus douloureux. « Mais comment, murmura-t-elle, nous sommes mariés depuis 8 jours. » « Et depuis 3, je connais notre ruine, » répliqua Valério d'un air sombre. « Il faut que tu vives, je ne trouve rien à faire ici. Une sorte de muraille s'élève autour de ma misère subite, et si je n'aperçois l'issue par laquelle seul je peux en échapper, je n'aurai à contempler que le désespoir. Eh bien, ma Lucie, j'ai accepté une proposition. » Je partirai, je travaillerai pour toi. Mais franchement, je ne me sens pas la force de t'imposer une nouvelle existence. Si je t'ai aimé, répondit Lucie en lui prenant les mains, ce n'est pas ma faute. Si je ne veux pas et ne peux pas te quitter, ce n'est pas ma faute. Je n'imagine pas ce que je deviendrai. Il faut que je te suive, il faut que je vive auprès de toi, le reste n'est rien. En parlant de la sorte, Lucie se laissa aller sur la poitrine de son mari. Elle prit entre ses mains la tête de celui qu'elle aimait, elle couvrit son front et ses cheveux de baisers passionnés, et Valério, vaincu, lui dit, en lui rendant baiser pour baiser, « Oh, c'est fini, tu viendras avec moi. » Il importe peu de savoir ici comment et pourquoi Valério Conti avait appris 5 jours après son mariage qu'un dépositaire infidèle lui emportait sa fortune. Il était homme actif, d'esprit, de science et de mérite. Il avait voyagé plusieurs années en Orient, et tout d'abord un de ses amis, lui apprenant son désastre, s'était entremis et lui avait offert de retourner à Constantinople avec la certitude d'y obtenir un emploi, soit dans cette capitale, soit dans les provinces ottomanes. Il vendit ce qu'il possédait. Le beau-père, exaspéré d'abord de voir un gendre ruiné, puis un gendre qui emmenait sa fille, lui donna peu de choses avec de grandes objurgations de ne jamais lui accorder davantage, et les deux pauvres petits amants, l'un qui avait 26 ans et l'autre qui en avait 18, partirent de Naples sur le paquebot qui s'en allait à travers les flots helléniques les porter à l'ancienne Byzance. Savoir voyager n'est pas plus l'affaire de tout le monde que savoir aimer, savoir comprendre et savoir sentir. Tout le monde n'est pas plus en état de pénétrer dans le sens réel de ce que les changements de lieu apportent de spectacles nouveaux que tout le monde n'est apte à saisir la signification d'une sonate de Beethoven, d'un tableau de Vinci ou de Véronèse, de la Vénus d'Arles ou de la Passion de Bianca Capello. À bord du navire qui emmenait Valério et Lucie et les poussait sur la nappe bleue des flots entre les îles Brillantées et l'archipel, se trouvait un bon groupe de ces excellents animaux que le monde chasse tous les printemps de leurs étables pour les emmener faire, comme ils disent, un voyage en Orient. Ils vont en Orient, ils en reviennent, ils n'en sont pas plus sages au retour. Ni le passé, ni le présent des lieux ne leur est connu. Ils ne savent ni le comment, ni le pourquoi des choses. Les paysages ne ressemblent ni à la Normandie, ni au Somersetshire, ne leur paraissent que ridicules. Les rues des villes n'ont pas de trottoirs. Il fait très chaud dans le désert. Les ruines trop nombreuses sont hantées par des petits animaux qu'on nomme scorpions. Les puces se permettent en nombre indiscret des expéditions intolérables sur la personne des passants. Les indigènes demandent trop de bakchich et on ne comprend pas leur jargon. Toutes ces puérilités sont peu de choses et on croit généralement que le voyageur se contente de ces délicates remarques qui pourraient à la rigueur, avec un peu de peine, étendre le cercle de ses expériences et pénétrer un peu avant sous l'écorce des choses. Ce qu'il arrête court, c'est qu'il ne sait pas voir. Il ne verrait jamais, dut-il voyager aussi longtemps qu'Isaac Lakedem, les beautés, les singularités, les traits curieux de ce qui s'étale sous ses regards. Gloire infinie à cette toute-puissance et bonne sagesse qui a bien donné assurément aux sots et aux méchants l'empire du monde, mais qui n'a pas voulu que ces méchants et ces sots puissent en apercevoir les perfections, en mesurer les douceurs et en posséder les mérites. Il y avait, sur le paquebot, 2 ou 3 Anglais, 3 ou 4 Français, 5 à 6 Allemands, fort préoccupés du dîner et du déjeuner du bord, jouant au whist une partie de la journée, et le reste du temps causant avec 2 actrices de Marseille engagées pour le théâtre de Péra, puis un marchand de meubles qui allait s'établir à Smyrne. Ces gens sont allés en Orient et en sont revenus avec le même profil qu'ils auraient eu à tourner dans une chambre vide. Gloire encore une fois au Dieu bon et bienveillant qui a réservé quelque chose exclusivement pour les élus. Valerio savait beaucoup, Lucie ignorait, mais Lucie sentait par instinct le prix de ce qui a du prix. Elle en devinait la valeur cachée, au moins aussi bien que Valerio, peut-être avec plus de délicatesse encore, elle était avide d'explications. Rien ne lui échappait. Les nouveautés la frappaient et la jetaient dans des contes où son imagination s'enfonçait sans s'arrêter. Un palicard qui montait à bord, se balançant sur les hanches de cet air arrogant et vainqueur particulier aux Albanais, suffisait pour transporter son esprit dans ces montagnes acroceroniennes dont son mari lui racontait à ce propos les pittoresques horreurs. Les vagues céruléennes qui se poussaient doucement l'une l'autre entraînaient ses pensées vers les côtes inaperçues de cette Afrique pleine de sable, de lions, de violences, des hommes associés aux violences de la nature, et ce semis de pierreries, d'améthystes, de topazes, de tourmalines, de rubis qu'on nomme l'archipel, jeté là au milieu des saphirs de la mer, qui faisait comprendre comment les peuples antiques, à l'époque de tant de splendeur, de tant de merveilles constamment vivantes, variables, séduisantes, avaient reçu dans leurs âmes la persuasion profonde que les dieux étaient là, présents, que les rayons du soleil étaient la chevelure même du divin cocher Apollon, que l'aurore pétrissait de ses doigts roses le firmament joyeux, et que la nuit sacrée enveloppait en souriant dans ses voiles, sans songer à les éteindre, et voulant à peine les cacher, les étincelles de feu allumées au front d'Andromède, de Callisto et des jumeaux homériques, cavaliers sublimes, protecteurs des navires. Quand Lucie, appuyée sur le bras de Valerio, contempla du bord, par un temps magnifique, cette pointe de rocher bleuâtre sur laquelle s'élèvent les colonnes blanches du temple de Sunium, elle eut une sorte d'éblouissement. La grâce, la majesté, l'éternelle jeunesse lui apparurent à la fois dans ses restes mutilés et toujours debout de ce temple qui a vu Platon s'asseoir et enseigner à son ombre. Une opinion du Dante, acceptée par l'ordre de Saint-Dominique, enseigne que la damnation des hommes consistera en ceci qu'ils obtiendront avec surcroît ce qu'ils ont aimé dans cette existence terrestre, ce qu'ils ont cherché, ce qu'ils ont voulu. Mis ainsi en possession de leurs désirs pour toute la longueur de l'éternité, il leur sera donné en même temps la peine de connaître ce qui est au-dessus, avec la certitude de ne pouvoir jamais l'atteindre. Peu importe, il est des dons de ce monde dont le pis-aller se pourrait accepter, et le sentiment puissant de la nature et du nombre. Quand on voit bien et qu'on aime ce qu'on voit, qu'on le possède pleinement avec ce que l'intuition inventive de l'esprit lui fait contenir, On se rend maître de la nature elle-même. On plane sur ses crêtes, on descend ses profondeurs. Avouez que c'est beaucoup que de longer les plaines de la Troade, dominées par l'Olympe d'Asie, et de là de contempler Ténédos. Pas à pas, les rivages rétrécis des Dardanelles s'éloignèrent devant les voyageurs. Le bassin de Marmara s'ouvrit, et au fond de cette coupe large et arrondie apparut la hauteur majestueuse qu'embrassent les murs byzantins, reliés par des tours innombrables, ceinture de Constantinople, enceinte d'où s'élève une forêt de minarets et de dômes au-dessus des cyprès nombreux aux feuillages sombres, pareils eux-mêmes à des pyramides. On a comparé l'aspect de Constantinople à celui de Naples. Quel rapport entre le plus charmant des tableaux de genre et la plus vaste page historique que l'on connaisse, entre un chef-d'œuvre du Lorrain et un miracle du Véronèse. On l'a comparé aussi à la baie de Rio Janeiro, mais qu'est-ce que cet enchevêtrement superbe d'innombrables bassins se succédant sous des montagnes déchiquetées, dont les nervures verticales hérissées de forêts semblent des orgues où se montre seule la nature physique, où aucun souvenir humain ne parle, où les yeux seuls sont étonnés, éblouis. Qu'est-ce que cette opulence toute matérielle a de commun avec l'aspect de Constantinople? Scène animée, magnifique, intelligente, éloquente, domaine du passé le plus grand, que peuplent à jamais les souvenirs, les sublimes créations du génie. Qu'est-ce que le plus achevé des paysages anonymes et muets, en face d'un spectacle si parlant? Quand la nature physique n'est pas imprégnée de la nature morale, elle donne peu d'émotions à l'âme, et c'est pourquoi les scènes les plus éblouissantes du Nouveau Monde ne sauraient jamais égaler les moindres aspects de l'Ancien. Valerio avait emporté de Naples une lettre d'introduction pour un des ambassadeurs représentant d'une grande puissance. Le comte de P le reçut à merveille et comprit d'abord à quel tempérament fin, pénétrant, impressionnable et rare il avait affaire. Lui-même était un de ces tempéraments. Il avait beaucoup vu, beaucoup éprouvé, beaucoup appris, tout retenu. Sa mémoire et son cœur conservaient les vibrations persistantes des émotions anciennes, ce qui n'est pas un don commun. En un mot, à travers les émoussements des grandes affaires, il était demeuré capable de s'enthousiasmer pour quelqu'un ou pour quelque chose. Le jeune ménage le charma. Ces deux hirondelles voyageuses, qui n'avaient plus d'abri et passaient effarées à travers le monde, lui inspirèrent de la sympathie. Il s'occupa de leurs intérêts et un matin, arrivant chez ses protégés, il leur prit la main à l'un et à l'autre et leur tint le langage que voici. « Votre sort me paraît fixé pour le moment. Sachez que les derniers restes de générosité et de chevalerie, si bien éteints en Europe, subsistent encore ici, dans l'âme de quelques Turcs de vieille roche. Bien entendu, je vous parle de ces Ottomans qui ont connu les janissaires. Grâce à mes amis de cette sorte, on vous confie, Valerio, sur les frontières orientales de l'Empire, une mission très indéfinie. Ceux qui vous envoient ne savent pas ce que vous aurez à faire et ne se soucient guère de l'apprendre. Ce qui leur importe, c'est que vous entriez au service de la sublime porte. Vous examinerez les forêts, les mines, les lieux où l'on pourrait tracer des routes, qui, en tout cas, on ne tracera jamais, et vous en direz votre avis, si cela vous agrée. Allez, vous êtes recommandé à tous les gouverneurs de l'Empire. Quand vous reviendrez, on vous donnera un emploi qui vous fera peut-être entrer dans ce que le langage moderne appelle superbement la vie pratique, c'est-à-dire dans toutes les platitudes, les niaiseries, les lâchetés de l'existence actuelle. Encore une fois, allez, mes enfants. Pendant quelques mois, vous n'aurez rien à faire qu'à marcher devant vous, où vous voudrez, comme vous voudrez, vite ou lentement. Rien ni personne ne vous presse. J'ai connu cette vie et je la pleure éternellement. C'est la seule et unique qui soit digne d'un être pensant. Allez, soyez contents, remplissez le monde de votre amour et votre amour de tout le charme infini du monde. Voilà Valerio et Lucie débarqués sur les plages lointaines de Trébizonde. Ils ont traversé cette mer noire, cet Euxin qui a vu tant de choses, et pourtant de toutes ces choses, ce dont il se souvient le mieux et dont il parle davantage, c'est de l'antique Argonaute. Sur le quai se pressait une foule d'Européens, que là on appelle des Francs. Marins, marchands, aventuriers de toute espèce, Ioniens, Grecs, Malquais, Dalmates, Français, Anglais, Valaques, triste multitude, et qui rampent bas dans la série descendante des créatures. Cependant leur esprit est quelquefois marqué d'un trait qui leur enlève une part de vulgarité. Ils ont l'instinct de l'imprévu, l'amour du mouvement et de l'audace, quelquefois aussi une lâcheté digne du capitaine de la comédie italienne, et qui ne manque pas d'originalité. Mêlés à cette foule bariolée et remuante, quelques ossements lisses passaient, le chapelet à la main. Presque tous étaient dégradés par le costume moderne, porté y compris à leur façon, c'est-à-dire très mal. Redingote marron ou bleue, avec les manches fendues ou déchirées pour rendre les ablutions plus faciles, des pantalons ignobles, tachés, une chemise mal blanchie dont le col se crispait sous l'étreinte d'une cravate mal tordue, un fez rejeté sur l'occiput, quelquefois avec le chapelet une grosse cigarette entre des doigts sales. Quand, sur le conseil haineux de la magicienne de Colchide, les pauvres filles des eaux entreprirent de rajeunir leur père, et que, après l'avoir dépouillé et mis tout nu, elles l'eurent coupé en morceaux, établi dans la chaudière bouillante, puis tiré de la pièce, pièce à pièce pétrie, dressé, servi, j'imagine que le pauvre devait avoir la figure, la tournure et l'encolure lamentable d'un Turc régénéré. En regard de ce pauvre air, se tenaient dans une attitude sombre et agressive des émigrés tcherkesses. Ces hommes farouches avaient compté sur l'hospitalité des Turcs, musulmans comme eux, pour leur remplacer la patrie qu'ils laissaient entre les mains des Russes. Ils n'avaient rien trouvé que la famine et l'abandon. Le désespoir assombrissait leurs yeux. La misère pesait sur leur dos. Ils avaient la mort en face et la voyaient en plein. Impuissants et à demi résignés, ils regardaient les navires de la rade, les passagers qui débarquaient, tandis qu'un abbas, vêtu de brun, avec ses chausses courtes et collantes et son turban de même couleur que son habit, le fusil sur l'épaule, le poignard à la ceinture, sa femme respectueusement à 10 pas derrière lui, considérait, brigand déterminé, les nouveaux venus de l'air d'une bête fauve qui contemple un troupeau de buffles et cherche un moyen de tenir un de ces animaux isolés, sans compagnon et sans pasteur. Trébizonde n'a en soi rien de bien curieux. Le nom est ici plus grand que le fait. Les maisons ne sont ni turques ni européennes. Elles tiennent des deux mondes. Il y a peu de restes du passé, et des restes sont insignifiants. Les rues sont larges et trop vastes pour les boutiques très humbles qui les bordent. Des constructions peintes en rouge ou en bleu de ciel n'appartiennent à aucun ordre d'architecture appréciable. Après tout, Trébizonde a cet intérêt d'être le dernier mot et le commencement de l'énigme. C'est la porte de l'Asie. Au-delà s'ouvre l'inconnu. À ses portes est assise l'aventure qui monte en croupe derrière le voyageur et s'en va avec lui. Quand Valerio et Lucie, accompagnés de Zaptiès fournis par le gouverneur, furent faits quelques lieues sur la route étroite, pavée en gros blocs de pierre, qui, bien que de construction moderne et pareil à un débris antique, ils se trouvèrent au milieu d'une nature tout idyllique, des prés et des arbres bordant le cours des ruisseaux et des montagnes courant à leur droite. Bientôt la scène s'agrandit, l'idylle devint une épopée, et la chanson que les deux amants sentaient gazouiller dans leur cœur éclata comme une symphonie dont les accords et les accents remplirent leur être tout entier. C'était un vertige délicieux qui, avec une égale intensité, les emportait hors d'eux-mêmes. Montés sur des chevaux qui secouaient joyeusement leur tête fine, ils marchaient en avant de leur escorte et se sentaient seuls, bien l'un à l'autre. Comme ils vivaient, comme ils s'aimaient, et rien ne les empêchait de s'aimer. Aucun souci ne frôlait de son aile grise ou noire l'épanouissement de leur tendresse, et au sein de la vaste nature, ils étaient aussi libres de s'abandonner à leurs sentiments simples et grands comme elle, que jadis, à l'aurore des âges, l'avait pu faire, avant la période de la chute et du travail asservissant, le couple heureux du premier paradis. Ils étaient en effet entrés dans une sorte d'Éden, car ils s'avançaient au milieu des vallées du Taurus. Pendant plusieurs jours, les rives d'un fleuve large, calme, limpide, descendant avec majesté vers la mer, remontèrent devant leurs regards dans l'intérieur du pays. Des forêts épaisses couvraient la croupe des monts harmonieusement étagés. Des chalets de bois s'attachaient aux pentes et se montraient jusque sur les cimes. Des troupeaux erraient dans les pâturages herbeux et jetaient au vent les tintements de leurs clochettes. Au pied des arbres énormes, aux écorces rugueuses, aux branchages luxuriants de verdure et audacieusement tourmentés, dont les racines jaillissaient brusquement hors de terre et étalaient sur leurs nervures toutes les variétés de mousse et de gazon, des fleurs innombrables, des pervenches surtout, étalaient complaisamment leurs corolles. Partout la vigueur et la fierté, partout la grâce et le charme. Les aigles et les faucons décrivaient leur cercle de chasse au plus haut de la courbure des cieux. Des oiseaux chanteurs s'ébattaient gaiement sous la verdure. Des roches abruptes s'élançant tout à coup du sein des bois formaient au-dessus des nuées comme une vaste esplanade d'où s'élevait quelque immense fortification, ouvrage démantelé des empereurs byzantins. L'Europe n'a jamais connu rien de pareil en étendue, en hauteur et pour les caprices inouïs de l'architecture. C'est là qu'on peut contempler dans une réalité qui ressemble à un rêve, les modèles certains de ces châteaux magiques que l'enchanteur Atlante et ses pareils faisaient naître d'une parole magique pour la plus grande gloire de la chevalerie. Avant que les croisés eussent considéré d'aussi étonnantes architectures, il n'était pas possible que l'imagination du poète le plus dédaigneux de la vraisemblance pût en amuser l'esprit d'auditeur qui n'y aurait pas cru. Des courtines énormes, à leurs flancs des moucharabis sculptés, entassés les uns sur les autres, des tours portant des faisceaux de tourelles, guirlandes de clochetons, des donjons travaillés comme de la dentelle, des portes qui s'ouvrent sur l'immensité des fenêtres d'où il semble qu'on pût voir jusqu'au plus profond des cieux, et tout cela énorme avec une délicatesse et une élégance inouïe. Voilà ce qui se présente au regard, et, je le répète, au-dessous flottent les nuages, tandis que le soleil miroite amoureusement sur les plateformes festonnées d'innombrables créneaux. Les amants arrivés à Erzeroum y furent reçus à bras ouverts par le gouverneur. C'était un Kurde. Il avait été élevé à Paris, au collège, et avait passé quelque temps à Constantinople dans les bureaux de la Porte. Nommé secrétaire à la délégation de Berlin, il s'y était arrêté 3 ans pour être transféré comme ministre dans une cour secondaire. On l'avait fait revenir. Il avait été Kaïmakam à Bayburt, et depuis 1 an, il était pacha d'Erzeroum. C'était un homme de bonne compagnie, médiocrement musulman, mais en revanche nullement chrétien. Sa confiance dans l'avenir de son gouvernement et de son pays ne s'étendait pas loin. Il croyait peu au mérite et surtout à la réalité des réformes, mais il croyait avec force à la nécessité de rendre sa position personnelle la meilleure possible. Ses habitudes européennes n'avaient nullement étouffé ses instincts asiatiques. Ceux-ci, à leur tour, ne cherchaient pas à trop réagir contre l'acquis de l'éducation. Il aimait les points délicats de la toilette, bien qu'il ne fût plus jeune. Il avait le goût des fauteuils et des meubles de Paris. Il s'entourait volontiers d'albums et surtout tenait à ce que sa table fût servie comme s'il avait vécu en plein faubourg Saint-Honoré. À cette fin, il entretenait un cuisinier et un maître d'hôtel français. Il était aussi abonné au Siècle et au Journal Illustré. Bref, Osman Pacha se montrait homme de goût avec quelques défectuosités. La dorure n'avait pas pénétré dans l'intérieur du métal kurde. Depuis plusieurs années, ce personnage supérieur s'était marié, et comme il avait sagement compris qu'une fille osmanlie de bonne maison n'apporterait dans son intérieur que des habitudes à la mode ancienne sur lesquelles lui-même n'était nullement façonné, il avait préféré laisser tomber son choix sur une esclave circassienne qu'un marchand du Caucase, sujet russe, lui avait vendu assez cher. Cette jeune personne était jolie, savait le français, la géographie, et jouait habilement sur le piano des valses et des contredanses. C'était plus qu'il en fallait pour assurer le bonheur domestique d'Osman Pacha. Ce bonheur était complet. La hanoum, la dame, s'habillait à l'européenne et ne portait que des modes de Paris qu'elle faisait également porter à ses 2 enfants, une fille et un garçon. Elle s'ennuyait à Erzeroum. Elle aurait voulu aller au théâtre, au bal, au bois de Boulogne, aux cours de Chantilly, au souper du café anglais. Le journal des modes lui avait révélé l'existence de ce monde enchanté et elle en rêvait. Pour les Asiatiques civilisés, l'idéal de la vie intelligente est chez les hommes la vie du club et chez les femmes celle du demi-monde. Osman Pacha et Fatmet Hanoum furent ravis de voir arriver Valerio et Lucie. C'était une distraction. Elle ne dura que peu de jours. Erzeroum n'est pas une ville attrayante. Placées sur un plateau nu et élevé, les rues y sont livrées au vent, froides, entourées d'une plaine maussade et stérile. Là, il pleut constamment, le ciel y est gris. Valerio n'y resta que juste le temps de s'entendre avec le chef de la caravane qui partait pour la Perse et auquel il avait l'intention de confier sa destinée. Il congédia ses abties qui ne devaient pas l'accompagner plus loin, et étant tombé d'accord avec le maître des muletiers, il annonça son départ à Osman Pacha et prit congé de lui. Lucie en fit autant dans le harem à l'égard de Fatmen Amoun. Ce furent de grandes expressions de regret, beaucoup de larmes et des embrassements sans fin. Puis, vers 2 heures de la nuit, Valerio et Lucie, avec 2 domestiques musulmans, prirent congé de leurs aimables hôtes et se mirent en chemin pour aller s'associer à leurs futurs compagnons de route. La caravane, comme c'est l'usage, avait quitté la ville depuis 2 jours y était campée à une demi-heure du faubourg. Elle était considérable. À la clarté de la lune, on apercevait de lignes de mulets et de chevaux attachés par le pied à des piquets et mangeant l'orge du matin. On allait partir. Des feux étaient allumés çà et là. Les ballots de marchandises s'élevaient comme des espèces de murailles et formaient en plusieurs endroits des cellules dont les propriétaires s'occupaient à enlever le mobilier temporaire, composé des tapis et des couvertures sur lesquelles et sous lesquelles ils avaient dormi. Les constructions mobiles formaient comme des rues où déjà la foule circulait très affairée. Çà et là s'élevaient quelques tentes légères dont les toiles laissaient percer les rayons lumineux des lampes matinales, et des ombres passaient et repassaient au-dessous. Bien des petits boutiquiers tenaient, étalés par terre auprès d'un réchaud de charbon, des gâteaux, des pains très minces et feuilletés, l'appareil pour faire le thé ou le café, des tasses, du laitage, quelques peaux de mouton ou de volaille. On déjeunait, on allait, on venait. Les muletiers réunissaient les ballots, ils les couvraient de cordes et commençaient à charger les bêtes. De saints personnages criaient à haute voix des prières. Valerio se fit conduire auprès du chef des muletiers, après avoir laissé Lucie pour quelques instants auprès d'une famille turque qui allait à Bayazd et à laquelle le pacha avait recommandé la jeune dame italienne. Un chef du muletier, un chef de caravane, n'a pas de rang hiérarchique parmi les fonctionnaires publics d'aucun pays musulman. Ce n'en est pas moins un grand personnage en un certain sens. Il jouit de deux privilèges bien rares dans le monde. D'abord, il commande à tout ce qu'il approche, et son autorité n'est jamais mise en doute. Ensuite, sa probité est toujours incontestée, et il est rare qu'elle ne soit pas incontestable. En ce qui concerne Kerbelé Houssain, le maître muletier auquel Valerio se trouva avoir affaire, ce dernier point était assuré. Il n'y avait qu'à le considérer avec un peu d'attention pour reconnaître immédiatement dans son visage les signes de l'intégrité native. Kerbelé Houssain était un homme de taille moyenne, trapu, remarquablement fort. La moitié de la figure couverte jusqu'aux pommettes d'une barbe noire, courte et frisée, des yeux francs et hardis, éclairés de regards droits et fermes, un teint hâlé, l'air grave et prudent, comme il sied à un homme accoutumé à se sentir responsable. Kerbelé Houssain était de la province de Chouster, l'ancienne Susiane à laquelle appartenaient la plupart de ses camarades. Il possédait en propre 300 mulets de charge, ce qui constituait un avoir assez respectable. Il était donc riche, considéré. Mais comme il convient à un homme de sa profession, il ne se donnait aucun titre pompeux, ne faisait même pas appeler bègue, allait vêtu de laine fort propre, mais très commune, et se contentait d'être le plus despotique et le plus inflexible des législateurs. D'ailleurs, il ne s'emportait jamais, content d'égaler en obstination le plus obstiné de ses mulets. Maître, dit Valerio à ce personnage, vous allez à Tabriz? Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, répondit Kerbelé Houssain avec une dévote réserve. Et combien de jours comptez-vous mettre dans ce voyage? Mon Dieu se le sait, répliqua le chef, toujours du même ton. Cela dépendra du temps, bon ou mauvais, de l'état des pâturages pour mes mulets, du prix de l'orge dans les différentes stations et enfin du séjour que nous ferons à Biazid et ailleurs. Et oui, de sorte que vous ne pouvez pas du tout me dire à l'avance quand nous arriverons. Le muletier sourit. J'ai vu des Européens, dit-il, et j'ai toujours remarqué qu'ils sont pressés. Croyez-moi, l'heure de la mort arrive toujours. Vous avez le temps. Ni une minute plus tôt, ni une minute plus tard, que le sort ne le veut, nous n'arrivons à Tabriz. Vivez content, croyez-moi, sans vous tourmenter davantage. Vous m'avez l'air d'un brave homme, répliqua Valério, et je crois que vous êtes tel. Je vais donc vous parler à cœur ouvert. J'ai une jeune femme, et je crains que la prolongation des fatigues de la route ne soit une épreuve un peu dure pour elle. C'est pourquoi je viens me consulter avec vous sur ce qu'il y aurait à faire pour que ma femme souffrît le moins possible. Ensuite, j'ai encore quelque chose à vous demander. Pour mon voyage, j'emporte quelque argent, et avec tant de monde qu'il y a ici, dans la caravane, je ne suis pas bien aise de l'avoir toujours sur moi. Je crains qu'on ne me le vole. « Oh, c'est ce qui arrivera certainement avant qu'il soit deux jours, » répondit le muletier, « si vous gardez votre bourse par-devers vous. Donnez-la-moi, je paierai vos dépenses en route et je vous tiendrai compte du surplus quand nous serons arrivés à notre destination. » Valério n'avait voulu que provoquer cette offre et il s'empressa de remettre ce qu'il possédait entre les mains de Kerbelet ou Sen. Celui-ci compta et recompta l'argent et le mit dans un coffre sans donner le moindre reçu, comme c'est l'usage. Il en fit lui-même la remarque et dit en souriant à Valério : Je suis allé une fois jusqu'à Trébizonde et deux autres fois je suis allé à Smyrne. Il paraît que vous autres, Européens, vous êtes de grands voleurs car vos négociants se demandent constamment des gages les uns aux autres. Mais vous comprenez que si muletiers n'étaient pas des gens d'honneur et qu'ils n'ont aucunement besoin d'attester sans cesse leur probité, le commerce serait tout simplement pas possible. En ce moment, vous voyez, un grand marchand de Téhéran compte sur moi. Il m'avait remis il y a un an 80 000 tomans pour lui rapporter des étoffes de laine et de coton, des porcelaines, des cristaux, des soieries et des velours, que j'ai dû faire demander à Constantinople. J'ai dépensé 60 000 tomans et je lui rapporte le reste. J'ai mon frère qui mène une caravane de Bagdad à Shiraz, de Shiraz à Yezd et de Yezd à Kerman. Et il a eu dernièrement pour 100 000 tomans une commande de châle destinée à un négociant du Caire. Il a dépensé 150 000 tomans que sur sa parole on lui a parfaitement payé. Si nous autres muletiers nous donnions prise au moindre doute, je vous le répète, qu'est-ce que le commerce deviendrait? Certes, Effendom, il faut grandement remercier Dieu très haut et très miséricordieux, parce qu'ayant créé tous les hommes voleurs, il n'a pas voulu permettre que les muletiers le fussent. Et là-dessus, Kerbelet Houssen se mit à rire, et comme on lui apporta son thé, il en frit une tasse à Valério qui accepta. « Bon, maintenant, poursuivit le brave homme, vous m'avez adressé une autre demande, et comme je l'ai trouvée de beaucoup la plus importante, j'y réponds en dernier. Vous excuserez la liberté avec laquelle je vais vous parler de votre maison. Je sais que les Européens ne sont pas sur ce point-là aussi délicats que nous, et je les approuve, car il y a beaucoup de grimaces dans notre prétendue réserve, et en outre, je suis un père de famille. » J'ai 4 filles mariées qui ont des enfants, et je vous parlerai de votre femme comme d'une fille à moi, puisque vous avez eu la confiance de me consulter à propos d'elle. Ah, Kerbelet Houssen, vous êtes un digne homme, répliqua Valério. Je vous écoute avec toute attention et une confiance entière. Mais pour commencer, vous avez eu tort d'emmener votre maison avec vous dans le voyage que vous entreprenez. Je m'imagine assez ce que sont vos femmes, elles ne ressemblent point aux nôtres. J'ai vu cela du coin de l'œil dans les villes habitées par des Ferengis. Les nôtres, oh, on en met 2 sur un mulet, une à droite, l'autre à gauche, avec une toile bleue par-dessus et 3 ou 4 enfants sur leurs genoux. Elles bavardent, elles dorment, on ne s'inquiète pas. Si ce sont de très grandes dames, on leur donne, au lieu de ces qu'elles j'avais, un takelrevan, une grande boîte portée sur 2 bêtes, l'une devant, l'autre derrière. Cela tangue et roule comme un vaisseau. Elles sont fort bien là-dedans. Mais vos femmes sont trop raffinées. Vous leur apprenez tant de choses, vous les gâtez si fort qu'il est impossible de les traiter de cette façon-là. Mon avis est donc qu'elles ne doivent pas venir dans nos pays où il n'existe pas de voitures, pas de beaux meubles, et où en revanche on a trop de soleil, trop de chaleur ou trop de froid, beaucoup de fatigue, et elles n'y peuvent pas tenir. « Que signifie cette crainte que vous voulez me donner, Kerbelé Houssein ?» répondit-il. « Grâce au ciel, ma femme est forte, bien portante, et jusqu'ici elle s'est accoutumée de tout et n'a souffert de rien. »« Sans doute, sans doute. Gloire à Dieu qu'il en ait été ainsi. Mais voilà que les difficultés commencent. Enfin, tout ira bien, Inch'Allah, Inch'Allah. » Oh, je ne veux pas vous effrayer sans raison, Effendam, mais vous rendre précautionneux. Car vous savez que d'ordinaire, vos pareils ne savent guère ce que c'est que le bon sens. J'espère qu'il n'en est pas ainsi pour vous. J'ai un joli petit cheval qui va l'amble. Je vous l'enverrai tout de suite pour porter votre maison. Il vaut mieux que sa monture actuelle. Valério remerciait le digne muletier. Quand on entendit des cris aigus, des accents de fureur, un tapage effroyable. Un muletier accourait en gesticulant et fendait la foule qui semblait indignée. « Qu'y a-t-il ? » demanda Kerbelé Houssein avec calme. « Ben, c'est, répondit le muletier, un scélérat de Chemsiyeh qui prétend se joindre à la caravane. Fit-on jamais pareille insolence ? Nous voulons le chasser, il n'obéit pas. »« Je vais lui parler, » répondit Kerbelé Houssein d'un air grave. Et il se mit en route dans la direction que les cris et les gesticulations de la foule lui indiquaient. Valério le suivit. Et ils arrivèrent en dehors du camp, sur le bord d'un petit ruisseau dominé par une roche. Au pied de cette roche se tenait un homme que les gens de la caravane insultaient et menaçaient. Les Turcs étaient particulièrement acharnés. Les Persans ricanaient et criaient des injures. Des Arméniens catholiques levaient les bras au ciel avec des exclamations de douleur et de scandale. Plusieurs Juifs branlaient la tête d'un air grave et gémissaient sur la désolation de l'abomination, mais ils ne faisaient pas trop de bruit. Quelques pierres, visant le personnage poursuivi par une animadversion générale, vinrent rebondir sur la roche. Elles étaient lancées par des enfants kurdes. Le Chemsiyeh, debout, se contractant tous ses membres devant les projectiles qu'on lui jetait et que Kerbelé Houssein arrêta d'un geste, paraissait avoir une quarantaine d'années. Sa figure semblait douce, ou plutôt doucereuse et craintive. Sa bouche souriait, ses regards s'échappaient en dessous et circulaient rapidement autour de lui. Il était vêtu à la façon kurde, mais portait un bonnet de feutre blanc de dimensions très exiguës. À la main, il tenait un petit bouclier rond, couvert de ganses et de glands, qu'il serrait convulsivement pour s'en garantir contre la lapidation. Il portait un sabre et un poignard, mais ne semblait nullement tenter de s'en servir. « Que veux-tu, chien ?» lui dit sévèrement Kerbelé Houssein. « Monseigneur, répliqua le Chemsiyeh avec son sourire inimitable et une extrême humilité, je demande la permission à votre Excellence de me joindre à la caravane pour aller jusqu'à Hirazik. Je n'ai pas l'intention d'être à charge à personne, je ne demande pas la charité. Veuillez seulement m'autoriser à me joindre à vous, il ne m'en faut pas davantage. » Un cri général de réprobation s'éleva de toutes parts. « Mais qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda Valério. « Est-ce que cet homme est un malfaiteur ou un pestiféré ?» Kerbelé Houssein leva légèrement les épaules. « Bon, c'est tout simplement un Chemsiyeh, » répondit-il tout bas à son interlocuteur. « Il adore les idoles des anciens, et à ce qu'on dit le soleil. Les Turcs voudraient le manger parce qu'ils ne vénèrent ni Osman, ni Omar, ni Abou Bek. Les Serbes persans voudraient le voir manger parce qu'ils aiment les spectacles et le tapage. Et les chrétiens et les juifs saisissent cette occasion de se montrer zélés partisans de l'unité divine. Oh, Dieu sait avec quelle exactitude ce qu'il en est. Pour moi, je mettrais toute ma caravane en désordre si je blessais les sentiments de ce monde. Le Shemsien ne peut pas venir avec nous. Allons, s'écria-t-il d'une voix rude, allons, l'infidèle, scélérat maudit, décampe. Comment as-tu l'impudence de prétendre t'unir à une compagnie si honorable? Mais je suis sujet du sultan, comme vous autres, répliqua le Shemsier d'une voix assez ferme. Si je vais seul à Azazdil, je serai volé, assassiné sur la route. Vous n'avez pas le droit de me repousser. Je ne fais de mal à personne, et les nouvelles lois sont pour moi aussi bien que pour les musulmans et les autres gens du livre. Là-dessus, il s'éleva un tollé furieux parmi les citoyens de la caravane. Les pierres recommencèrent à voler de toutes parts, et des sabres même allaient se tirer, quand Kerbelé Houssen, assénant autour de lui trois ou quatre bons coups de bâton qui arrachèrent des cris de douleur aux victimes, mais calmèrent l'élan général, s'écria plus haut que tout le monde, « Oh, ne me souviens pas des nouvelles lois, allez, va-t'en! Ne trouble pas plus longtemps d'honnêtes gens qui vont à leurs affaires. Et si Dieu te permet, dans sa sagesse impénétrable, de souffler, luer le monde de ta présence, au moins que ce ne soit pas parmi nous. » Un applaudissement général couvrit la fin de ce discours édifiant. Mais Valerio, considérant la figure Shemsiyeh, vit des larmes sillonner ses joues. Il fut ému, lui aussi, et il dit brusquement à Kerbelé Houssen, et de façon à être bien entendu par la foule, « Je prends cet homme pour mon domestique. Oh, je ne sais pas s'il est Shemsiyeh ou autre chose, mais je ne m'en soucie point. » Si quelqu'un m'attaque, moi ou les miens, il aura affaire au vizir d'Erzeroum. Comprenez-vous cela, Kerbelé Houssen? Oh, parfaitement, répondit celui-ci avec un clignement d'œil approbatif. Mais moi, je ne veux pourtant pas faire de la peine à qui que ce soit. Hommes musulmans, chrétiens et juifs, vous entendez ce que vient de dire ce seigneur européen? Je suis un pauvre muletier, je dois respecter les ordres du gouvernement sublime. Mais si quelqu'un d'entre vous n'est pas content, je l'engage à rester à Erzeroum. Mais voilà, les bêtes chargées, alors en marche. Sur cette parole magique, toute la foule se dispersa, subitement entraînée par le sentiment et la passion de ses affaires et de ses intérêts directs. Et tandis que défilaient les chameaux chargés et le reste, le Shemsiyeh saisit la main de Valerio et la baisa. « J'ai, lui dit-il tout bas, ma femme mourante à Zaïskzik. J'étais venu chercher un peu de travail à Erzeroum. Je rapporte de l'argent. Oh, que Dieu vous bénisse et vous sauve. Mais pourquoi ne me recommandes-tu pas à tous les dieux ?» répondit Valerio en souriant. « Je ne veux pas choquer vos opinions, répliqua l'homme de la foi ancienne, mais bien vous exprimer ma reconnaissance. » Valerio s'empressa de rejoindre Lucie avec son nouveau serviteur, et il lui expliqua ce qui venait d'arriver. Le petit cheval emblié de Kerbelé Houssen arriva, et Lucie, l'ayant monté, le trouva fort à son goût. Valerio, comme d'ordinaire, se mit à sa gauche. Le Shemsiyeh allait à pied de l'autre côté. Quelques domestiques suivaient. Quand le soleil se leva tout grand, il éclaira la caravane en pleine marche. Oh, c'était un spectacle très beau et très grand. Le train immense, composé de 2000 voyageurs, s'étendait sur un vaste espace de terrain. Des files de chameaux et de mulets se succédaient sans interruption, surveillés par les gardiens qui, la tête couverte de bonnets de feutre ronds ou cylindriques, absolument comme ceux dont les vases et les sculptures antiques présentent les images, cousait ou tricotait de la laine tout en marchant. Kerbelé Houssen, monté sur un cheval très modeste et roulant d'un air fort sérieux son chapelet dans ses doigts, était entouré de quelques cavaliers aussi graves que lui, soit des moulas, soit des marchands de considération. Ce groupe respectable était évidemment l'objet du respect général. Ici, des négociants couraient, faisant avancer leurs montures. Plus loin, c'étaient des gens assez richement vêtus, appartenant à d'autres professions que le commerce, soit qu'ils fussent employés du gouverneur ou militaire ou propriétaire terrien. Puis il y avait la foule, le plus souvent marchant à pied, causant, gesticulant, riant, se portant de côté et d'autre. Quelquefois, de ces hommes, disait un muletier: « Frère, voilà une bête qui ne porte rien, puis-je monter dessus ?»« Oui, répondait le muletier, que me donneras-tu ?» Alors le marché se débattait en cheminant et l'homme payait et se prélassait sur la bête. Puis les femmes, qui se tenaient à part, allaient, faisaient un bruit beaucoup plus grand que les hommes. C'étaient des pépitements, des rires, des cris, des fureurs, des pleurs, des adjurations qui n'avaient point de fin, et les enfants y joignaient de temps en temps des hurlements aigus. On voit cette masse et les chameaux et les chevaux et les mulets et les ânes et les chiens et les gens refrognés et les élégants et les prêtres et les musulmans et les chrétiens et les juifs et tout le tapage, on l'entend. La foule marchait en avant, marchait avec lenteur, mais en même temps semblait constamment tourbillonner sur elle-même. Car les piétons, surtout, en agitation perpétuelle, allaient de la tête à la queue du convoi et de la queue à la tête pour parler à quelqu'un, rencontrer quelqu'un, amener quelqu'un à quelqu'un. Enfin, c'était une agitation permanente et un bouillonnement qui ne s'arrêtait pas. Lucie en était à la fois étourdie, étonnée, amusée à l'excès. Elle demandait à son mari 1000 explications, à la fois sur les diverses parties de ce spectacle nouveau, et rien ne lui avait donné l'idée jusqu'alors qu'un tel tableau fût possible. C'est cependant là, dans ce vagabondage organisé, que se développe le plus à l'aise le caractère et l'esprit des Asiatiques. Vers 8 heures, la caravane s'arrêta pour se reposer toute la journée et ne repartit que dans la nuit vers 2 heures. Kerbelé Houssen, fidèle à sa sollicitude pour les jeunes Européens, vint lui-même leur désigner un endroit choisi où il fit élever leur tente. On la plaça au milieu du beau quartier, de ce qu'on appellerait en Europe le quartier aristocratique. Là n'habitaient que gens sérieux et dignes de considération. C'était plus respectable, mais moins amusant que les autres parties du camp. Aussi Valério emmena-t-il Lucie très bien voilée pour se promener un peu partout. Ce qu'on pouvait considérer comme le séjour de la bourgeoisie comptait encore quelques tentes, mais petites et basses pour la plupart. La plus grande partie des habitations ne se formait que de ballots montés les uns sur les autres et couverts par des pans d'étoffe interposés entre les rayons du soleil et la tête du propriétaire de ce qu'on saurait appeler un immeuble. Certains de ces arrangements étaient très jolis et confortables, bien garnis de tapis et de coussins. Dans le quartier populaire, on ne rencontrait que des bivouacs, des feux allumés, quelques baraques faites avec des bas de mulets et de chameaux. Là, les gens, peu sybarites, dormaient étendus sous la lumière crue, avec leurs abats sur la tête, et partout dans les froids quartiers se dressaient les rôtisseries, les boutiques d'épicerie, les marchands de thé et de café, et l'on entendait, dans plus d'un coin, dont le maître était invariablement un Arménien, le son d'une guitare et d'un tambourin. Il était sage de ne pas trop s'aventurer de ses côtés. « Madame, dit en italien une voix cassée, madame, je vous salue et je me présente à vous comme une femme bien malheureuse. » Lucie s'arrêta, Valerio en fit de même, et ils virent à leur côté une femme habillée en homme à la mode persane, avec un chapeau de paille sur la tête. « De quel pays êtes-vous ? Demanda Valerio. « De Trieste, monsieur. Je me nomme Madame Euphémie Cabara. Tel que vous me voyez, j'exécute en ce moment, pour la 27e fois, le voyage de ma ville natale à Téhéran. » Un intérêt bien puissant doit vous avoir imposé un genre d'existence aussi rude, demanda Valerio. La femme n'était pas de taille très élevée. Sa maigreur paraissait extrême. Son nez crochu, sa bouche mince, ses yeux petits, brillants, donnaient à toute sa physionomie une expression de dureté, de rapacité, peu agréables à voir. Elle répondit, « J'ai suivi d'abord mon mari, musicien militaire engagé par le gouvernement persan. J'ai fait quelques bonnes affaires au moyen d'un petit commerce. Et M. Gabara est mort, je suis retourné à Trieste, acheter d'autres marchandises et je suis retourné. J'ai continué à vendre, à gagner, à perdre. J'ai pris l'habitude d'aller et de venir ainsi. Moi, j'aime mieux cette existence que toute autre. Quelquefois, je me mets en service comme cuisinière, soit dans les harems, curieux de goûter des plats européens, soit dans quelques légations. En ce moment, j'apporte avec moi une pacotille de babeloterie. J'épargne mon argent, je loge avec les muletiers, je mange du pain et du fromage, et je sers Dieu le mieux possible. » « C'est une existence très dure, » s'écria Lucie. « Ma belle dame, reprit la femme d'un air sérieux et morose, chaque créature humaine a son lot. C'est pas la vie que je mène qui cause mon malheur. Oh, j'ai vu beaucoup de choses curieuses. » « Je n'en doute pas, repartit Valerio. Vous devriez les raconter à quelqu'un qui pourra les écrire. Ce serait assurément un livre intéressant. » Mais le livre est fait, dit Madame Euphémie Cabara. Et elle tira de sa poche un petit volume in 12 imprimé sur gros papier commun en caractère peu élégant. Elle l'offrit à Valerio, qui regarda la première page. On y lisait « Les aventures originales et véridiques d'une dame de Trieste dans les nombreux voyages qu'elle a exécutés toute seule en Turquie, en Perse, dans le pays des Turcomans et dans l'Inde, pour la plus grande gloire de Dieu et le triomphe de la religion. » Valerio regarda çà et là. Il ne lut absolument rien qui eût trait au pays visité par l'auteur. Tout consistait en une série d'anecdotes relatant d'innombrables occasions où la vertu de Madame Cabara avait couru les plus grands périls et d'où elle était sortie pure comme cristal et absolument triomphante. À dater de ce moment, une personne si respectable s'attacha à Lucie et à Valerio et, moyennant un petit salaire, se chargea de faire leur cuisine. Au bout de quelques jours, Valerio découvrait encore dans le camp un autre Européen. Celui-ci était un tout jeune homme venant de Neuchâtel, en Suisse. Il s'était épris de l'Orient sur la lecture des livres des voyageurs et faisait des vers. Il voulait, disait-il, s'inspirer aux sources mêmes de l'exaltation et du sublime, et son idéal était la Lalla Rocque de Thomas Moore. Ce que Valerio pensa de lui, c'est qu'il était à moitié fou. Les vers que le jeune enthousiaste lui montra à la première rencontre lui parurent détestables. Le pauvre garçon ne savait pas grand-chose. Il portait de grands cheveux, une ceinture de soie rouge, une épée croisée comme les chevaliers d'autrefois, des bottes fortes avec des éperons dorés, une plume à son chapeau. D'ailleurs, son argent de route était exigu et, pour le ménager, il faisait comme Madame Cabara. Il mangeait avec les muletiers et couchait sur leur couverture. Il était maigre, pâle, débile. Sa poitrine était atteinte. Avant d'arriver à la frontière persane, il mourut. Et un médecin sanitaire de la quarantaine, ancien étudiant saxon, le fit enterrer et plaça sur sa tombe une pierre où lui-même il grava le nom de la victime et une lyre au-dessus. Ce fut sans doute une consolation pour l'âme errante de celui qui n'aurait jamais su se servir de cet instrument. Il paraît qu'il ne suffit pas d'avoir la tête montée et une témérité aveugle pour tirer parti des choses. L'aspect de cet infortuné personnage, qui, sauf son erreur, aurait pu faire peut-être à La Chaux-de-Fonds ou à Moûtier un clerc d'avoué très convenable, remplit de tristesse le cœur de Lucie. Mais il n'y avait rien à faire qu'à laisser la destinée jouer à son aise avec sa proie. Chaque jour révélait aux deux amants quelque individualité nouvelle, les unes tragiques comme celle du poète, grotesques et fortes comme celle de la Triestine, touchantes comme cette autre que voici, ou dignes d'attention comme celle qui vient après. Lucie remarquait près de sa tente chaque matin un petit ménage composé du mari, de la femme et d'un enfant. Le mari pouvait avoir une vingtaine d'années et la femme 14 ou 15 ans. Elle ne manquait jamais de saluer Lucie, et bien qu'elle ne pût parler avec elle, elle se faisait comprendre par des signes, et ces signes étaient les plus aimables et les plus gracieux du monde. Le mari s'empressait de rendre les petits services qu'il pouvait à ses deux voisins de campement. Il avait à baisser la tente, à la plier, à charger les mulets, et cela sans façons obséquieuses, et avec cette bonne grâce et cette gaieté naturelle, partage des Orientaux qui savent vivre. Et il raconta lui-même son histoire à Valerio. Je m'appelle, lui dit-il, Redjeb Ali, et je suis d'un village aux environs de Yezd. Cette femme qui est la mienne est aussi ma cousine. Nous avons été élevés ensemble et nos parents avaient, dès notre naissance, à nous deux, résolu de nous marier. Il y a 2 ans, et comme ce projet allait s'exécuter, la jeune fille tomba malade, et chacun vit bien qu'elle allait mourir. Le médecin juif ne le cacha pas, mais n'en avait plus que pour quelques heures. Et quand je la vis sur sa couche, pâle et expirante, son père et le mien, sa mère et la mienne, pleurant, sanglotant et jetant des cris à fendre l'âme, oh, je ne pus supporter ce spectacle. Je l'embrassai sur la bouche pour lui dire adieu à elle et à toutes mes espérances, et je m'élançai dans la rue. Comme je franchissais le seuil de la maison, et que les yeux aveuglés par les larmes, je ne voyais pas ce que je faisais, je me heurtais contre quelqu'un qui me saisit brusquement dans ses bras. Qu'as-tu? me dit-il d'une voix rauque. Oh, laissez-moi, répondis-je avec colère, je suis pas d'humeur de parler à personne. Moi, je suis au monde, s'écria-t-il, pour parler aux affligés et les consoler. Raconte-moi ton mal, peut-être ai-je le remède. Je regardai alors celui qui me retenait, et je vis que c'était un vieux derviche à barbe blanche, l'air à la fois bienveillant et rude. Eh bien, mon père, répondis-je, la mort est dans cette maison. Laisse-moi aller maintenant, tu sais tout. Et me débattant avec force, je le repoussai loin de moi et je m'enfuis. Pour lui, à ce que j'ai su plus tard, il ne fit aucun effort pour me retenir et entra vivement chez mes parents. Il pénétra dans la chambre où agonisait ma fiancée, écarta d'un geste les assistants, s'empara du bras de la malade et, sans dire un seul mot, tira de sa poche une lancette. Il pratiqua une forte saignée, puis, tandis que le sang coulait en abondance, il prit dans sa ceinture une fiole contenant de la liqueur rouge et en versa plusieurs gouttes dans un verre d'eau dont il fit avaler quelques gorgées à ma cousine. Cela fait, il ouvrit la porte toute grande, ordonna à chacun de sortir et de se tenir dans la cour sans plus entrer, car, disait-il, il faut de l'air à cet enfant. Pour lui, il s'assit au pied du lit et resta les yeux fixés sur la mourante. Que dis-je, la mourante? Quand je revins une heure après, certain de ne plus trouver qu'un cadavre, je la vis sur son lit, les yeux grands ouverts, ayant repris connaissance. Sa bouche essayait de sourire. Elle me regarda. Puisse Dieu très haut et très saint donner le bonheur des élus aux derviches pour ce regard que je lui dois. Et pendant 3 jours, le vieillard n'abandonna pas celle qui venait de sauver. Nous lui offrîmes tout ce que nous possédions pour lui témoigner notre reconnaissance. « Je ne saurais qu'en faire, » nous répondit-il en souriant. « En ne possédant rien, je possède tout. Non seulement il est en votre pouvoir de me rendre un grand service. »« Parlez, » répondîmes-nous, « vous avez tout droit et tout pouvoir sur nos esclaves. » « Eh bien donc, » répliqua-t-il, « comme je viens de le dire, je suis vieux et mes forces ne sont plus grandes. Dans ma jeunesse, j'avais fait vœu d'exécuter 10 fois le pèlerinage de Kerbela. Je l'ai fait 9, je ne me sens plus en état d'accomplir ma 10e obligation. J'en ai un remords infini, ma vie est troublée et je ne serai sûr de ne pas être châtié. » Après ma mort, comme doit l'être un parjure, que si quelqu'un d'entre vous consent à se substituer à moi et à se rendre auprès du tombeau des saints immans pour leur dire ceci en se prosternant devant la pierre. Ô saints immans, martyrs sacrés de Kerbela, le derviche Daoud vient en ma personne baiser la poussière de votre sépulture. « Oh, c'est moi qui ferai cela, » m'écriai-je, « je vous le jure par votre tête et par la tête que vous avez sauvée. » Et pas une des parcelles des mérites que peut comporter une aussi sainte action ne sera dérobée par moi de votre part. Tout vous reviendra, tout vous appartiendra. Et plus tard, quand je serai revenu ici, j'irai une seconde fois et pour mon propre compte remercier les immans d'avoir, par votre entreprise, sauvé la vie à celle qui doit être ma femme. » Le derviche m'embrassa et je partis. J'accomplis son vœu et j'en tirai un certificat du gardien de la mosquée sainte. Puis je revins, je lui remis le document dont il se montra très satisfait et je me mariai. Le jeune homme s'arrêta sur cette parole et sembla hésiter un instant. Mais Valerio s'aperçut que c'était parce qu'il luttait contre l'émotion. En effet, il reprit après un peu de temps, d'une voix basse et tremblante. « Je vous dirai que ma femme est si bonne, si douce, et que je l'aime tant qu'il me sembla d'autant plus nécessaire d'aller remercier les imams de me l'avoir donnée. Je leur devais déjà un pèlerinage pour moi-même. » Je le fis, puis je revins. Quand je voulus repartir pour le 3e, qui était celui de la reconnaissance, elle m'a dit qu'elle aussi était reconnaissante, et voilà pourquoi nous allons ensemble cette fois avec notre enfant. Mais je m'aperçois que je fatigue votre excellence. Elle a eu une bonté infinie de m'écouter jusqu'au bout. Oh, je ne suis qu'un pauvre homme. J'ai grandement abusé de votre générosité. Il y a de ces âmes-là en Asie des gens qui ne vivent que par l'imagination et par le cœur, dont l'existence entière se passe dans une sorte de rêverie active, et qui peuvent d'autant mieux se passer de tout contact avec ce que l'on appelle ailleurs la vie réelle et pratique, que cette sorte de fardeau et les obligations qu'il accumule sur les épaules des humains n'existent là que pour les riches et les puissants. Les pauvres sont dispensés, s'ils le veulent, de rien faire. La nourriture et l'abri ne leur manqueront jamais, ni dans les caravanes, ni dans les villes. Et la parabole des oiseaux du ciel, auxquels le Père Céleste sait ce qu'il faut et le donne, n'est vraie que dans les contrées du soleil.